Manono, salam! Je suis Simbach et je vais vous emmener avec moi en voyage sur une île magique et magnifique que vous devez connaître de toute urgence, Madagascar. Originaire de cette belle île, située dans l'océan Indien, j'ai pris conscience que notre jeune génération malgache connaissait peu ou pas notre pays, nos cultures, voire l'histoire de Madagascar. J'ai donc décidé de lancer ce podcast, nouveau média en vogue, qui ne nécessite ni lecture, ni visualisation, pour vous faire découvrir tout ce que j'estime nécessaire pour enrichir notre savoir sur ce pays. Bonne écoute! Vivre à Madagascar quand on est africain soi-même peut parfois faciliter les choses. Enfin, ça, c'est ce que pensait Marouane avant de venir à Madagascar. Marocain d'origine, il a vécu quasiment toute sa vie au Maroc avec un court passage en France pour des expériences professionnelles. J'ai été curieuse de voir ce qu'on pensait de Madagascar et des Malagas quand on est africain soi-même. Marouane, en tout cas, s'est complètement laissé séduire par Madagascar. Il adore la vie, la nourriture, la chaleur humaine, bref, il adore Madagascar. Dans cet épisode, on a parlé de plein de choses intéressantes, comme voyager à Madagascar, se déplacer ou encore faire du sport à Madagascar. Et bien sûr, Marouane nous invite à aller à Mada parce que oui, la vie est belle, la nature est époustouflante, et magique, et en plus, vous trouverez du boulot facilement si vous êtes diplômé. Alors, qu'attendez-vous? Allez, c'est parti pour cette nouvelle conversation qui pour sûr va vous donner encore envie d'aller à Mada. Bonne écoute! Bonjour Marouane, comment vas-tu?
Bonjour Sambach, très très bien, et toi?
Oui, ça va très bien, merci. Merci beaucoup d'être là avec moi aujourd'hui pour le podcast. Alors, je trouve ça très intéressant que tu sois là parce que tu es le premier Africain à venir parler de Madagascar en dehors, bien sûr, des Malgaches. Donc, tu vas nous partager un peu ton point de vue sur le pays qui est pour sûr très, très intéressant. Donc,
plaisir.
Pour commencer, je vais te demander de te présenter, donc nous dire quel âge tu as, où tu vis à Madagascar, depuis combien de temps et qu'est-ce que tu y fais.
Très bien. Donc, je suis Marouane, je vis à Tana depuis bientôt 2 ans. Ça va faire 2 ans ininterrompus que j'ai eu l'occasion de venir à Madagascar, à Tana particulièrement, et j'en suis quasiment pas reparti depuis. D'accord. À la base, effectivement, comme tu disais, voilà, c'est la perspective un peu africaine, puisque je suis marocain. Mm-hmm. À la base, je suis venu de Casa.
D'accord.
Et j'ai eu l'occasion, dans le cadre de mon boulot, eh bien, d'aller passer quelques temps à Tana. Mm-hmm. Et eh bien, c'était une expérience vraiment intéressante, vraiment passionnante. Et je t'en dirai un peu plus par la suite.
Bien sûr. Donc, tu as grandi au Maroc de ta naissance jusque avant que tu ailles à Madagascar?
Absolument, absolument. Né et grandi au Maroc, un petit passage par la France, par Paris notamment pour les études, une première expérience professionnelle.
D'accord.
Et ensuite c'était le Maroc, voilà. Donc,
d'accord.
Casablanca.
D'accord, parfait. Et est-ce que tu connaissais déjà Madagascar avant de venir via des Malgaches, toi-même pour voyager? Est-ce que c'est un pays qui t'était déjà un peu familier?
Alors il y a 2 choses. La première, c'est qu'il faut savoir que tous les Marocains, absolument tous les Marocains, connaissent Madagascar.
D'accord.
On entend beaucoup parler. Le pays, si tu veux, est enseigné dans les manuels scolaires pour des raisons historiques.
D'accord.
C'est que le roi du Maroc et le peuple a un très fort attachement à sa royauté. Mm-hmm. Il avait été exilé à Antirabé en 1954-55.
D'accord.
Noir, donc toute la famille royale a vécu une parenthèse malgache. Et depuis, si tu veux, les pays sont quand même liés, puisque je sais que le roi, le prince, ont gardé un souvenir très fort de Madagascar. Et du coup, les liens sont vraiment particulièrement importants. Donc, il n'y a aucun Marocain
D'accord.
qui ne connaît pas Madagascar, qui ne sait pas le placer sur une carte, et encore plus marrant, qui ne connaît pas la ville d'Antirabé.
D'accord.
Il y a ça.
D'accord.
D'autre
très
part, voilà, la vie a fait... Et ça, c'est vraiment les hasards de la vie, fait que dans mon parcours, je me suis souvent fait des amis malgaches. Donc, on a une certaine affinité culturelle aussi qui fait que, même à l'étranger, eh bien, on se retrouve et on s'entend particulièrement bien.
D'accord, parfait. Donc finalement, tu connaissais un petit peu le pays. Et pourquoi tu as choisi Madagascar? Parce que c'est pas forcément le premier pays auquel on pense, surtout pour une expatriation en Afrique. Qu'est-ce qui fait que tu as atterri là, à Madagascar?
À la base, j'ai pas choisi, pour être tout à fait honnête. C'est
D'accord.
une opportunité de travail qui fait que je devais gagner un projet dans le cadre de mon travail qui devait me faire voyager assez régulièrement à
D'accord.
Madagascar. Or, le Covid a commencé à pointer le bout de son nez. Et bien, j'avais un peu le choix, soit entre travailler fortement à distance avec toutes les contraintes que ça veut dire, soit venir passer quelques semaines, quelques mois d'affilée à Mada. Donc ça, c'était il y
D'accord.
a 2 ans, et 24 mois plus tard, ben, j'ai passé 24 mois à Tana, puisque la vie est particulièrement agréable.
Et quand tu t'es dit bon bah ça y est, je vais aller à Madagascar, j'accepte le projet. Quelle image t'avais du pays? Est-ce que t'étais parti un peu en étant un peu excité? Tu vas découvrir un nouveau pays? Au contraire, tu traînais un peu des pieds. T'étais dans quel mood?
Je traînais un petit peu des pieds pour ne rien te cacher, pour 2 raisons. La première, c'est mon inculture, c'est-à-dire que j'étais persuadé que voilà, qu'on allait vivre dans des conditions vraiment difficiles. Je me suis
D'accord.
aussi pas mal basé sur des forums d'expatriés qui sont clairement la pire manière de se renseigner sur un pays avant d'y aller, puisque ça
D'accord.
concentre beaucoup
C'est
de
vrai.
frustration et de personnages aigris, hein. On prend rarement son clavier pour dire à quel point son expérience est magnifique. On prend
C'est
son
vrai.
clavier quand ça se passe mal. Donc, quand j'ai lu les forums, et je les ai lus vraiment avec attention, j'avais l'impression que pour venir à Madagascar, il fallait que j'aie dans ma valise un bazooka pour me défendre et du PQ parce qu'on n'en trouve pas dans les supermarchés.
D'accord.
Et effectivement, j'ai très vite eu une claque en me rendant compte qu'on trouvait absolument tout et que la qualité de vie était très bonne.
Et quand tu es arrivé, quelles étaient tes premières impressions quand tu es arrivé à l'aéroport, les premiers vraiment, tu vois, les tout premiers contacts, généralement, c'est à l'aéroport.
Oui.
C'est un peu le côté humain qui finalement nous donne une image du pays. Comment tu
Oui.
as trouvé les Malgaches, du moins les locaux que tu avais vus, vraiment les premiers que tu avais vus?
Alors, incroyablement gentil, limite trop. C'est
D'accord.
la première chose qu'on vient, puisque voilà, je dirais que nos deux peuples ont quand même des caractères qui sont diamétralement opposés. Autant on
D'accord.
est très calme, mesuré, posé à Madagascar, c'est comme ça que je le sens. Autant on est un peu plus sanguin et un peu plus direct, hein, au Maroc et dans les autres pays méditerranéens. Donc c'est la gentillesse et le calme.
D'accord.
Donc je me rappelle que la première chose qui m'avait choqué, mais c'est choqué, hein, le mot, c'était fort. C'est-à-dire que en partant de l'aéroport, en allant en ville, donc naturellement, je passe par la case embouteillage, et à un
D'accord.
moment, je suis choqué de voir que personne ne klaxonne. Je me dis, c'est incroyable, les gens sont incroyablement zen dans ce pays. Et c'était le cas, c'était vrai.
D'accord. Parce qu'au Maroc, c'est comment?
Ah ben, tu vas pouvoir l'entendre bientôt, hein. Là, je m'y trouve en ce moment pour un déplacement professionnel. Tu vas bientôt entendre des
D'accord.
klaxons qui vont commencer. C'est
D'accord.
beaucoup plus nerveux, disons.
D'accord, parfait. Et donc du coup, tu commences à t'installer un peu à Madagascar. Au niveau du paysage, de la ville, vraiment de Tana, la capitale, comment t'as trouvé la ville?
Je dirais compliqué. C'est-à-dire qu'au démarrage, il m'a fallu minimum un bon mois, si ce n'est plus, pour commencer à me retrouver spatialement dans la ville. C'est une capitale qui est assez atypique, puisque au final, il y a beaucoup de petites rues étroites, de pentes. Il faut bien maîtriser son démarrage en côte quand on conduit. Il y a
Oula, c'est pas
beaucoup de
pour moi
sens
ça.
unique. Voilà. C'est des sens uniques. Il y a des choses qui sont assez complexes, hein. Parfois, pour aller à un endroit, eh bien, ça prend 1 minute aller, 45 minutes retour. C'est très. Voilà. J'ai très vite vu aussi que voilà, prendre des sens interdits, c'était pas bien vu ici. C'était moins toléré que là d'où je viens. Donc,
D'accord.
il faut connaître bien la ville. La ville n'est pas facile à lire d'un point de vue strictement urbanistique, si tu vois ce que je veux dire. Voilà.
D'accord,
Ah, ça
d'accord.
a pris du temps. Voilà.
Et tout ce qui est ton intégration, on va dire, parce que quand on arrive dans un pays, tu sais, il y a souvent le choc culturel qui est plus ou moins fort, hein, selon le pays dans lequel on arrive et selon le pays duquel on vient.
Ouais.
Pour toi, comment ça s'est passé, le choc culturel, et puis vraiment le fait que tu t'y sentes bien à Tana?
Alors, c'est déjà venu, je pense, d'un choix délibéré de mon côté. En me renseignant un petit peu, j'avais l'impression qu'il n'y avait qu'une seule option décente de quartier pour se loger, c'est Ivanche. Quartier résidentiel, expat ville, pour pas dire ghetto d'expat. Donc, en bon marocain, à chaque fois qu'on me donne un seul choix, je le challenge et je fais pas ça. Donc, j'ai plutôt fait le choix de vivre en centre-ville, plutôt dans une zone où il n'y a pas d'étrangers, et vivre vraiment en contact de mes voisins, des autres concitoyens malgaches. Mes amis, j'ai très vite été onboardé par de vieux amis à moi qui ont fait le choix de retourner vivre à Madagascar. C'est mes premiers contacts, mes premiers amis qui m'ont fait rencontrer d'autres amis également. Donc j'ai fait le choix très délibéré de ne pas être dans la bulle d'expatriés. Et j'ai pu le faire avec une facilité incroyable, énormément, énormément d'amis à Tana en quelques jours, quelques semaines. Et ça, c'est fantastique.
Et du coup, concernant les expatriés, j'avais une question parce que généralement, quand tu vas dans un pays, tu vois, t'as ceux qui, au contraire, donc dans ton cas, chercheraient des Marocains ou des Français parce que tu y as vécu, donc tu connais plus ou moins la culture pour vraiment être plus à l'aise et vivre un peu mieux ton intégration. Et tu en as d'autres qui, comme toi, veulent être avec les locaux. Les expats dont tu parles, par exemple, à Madagascar, il y en a qui ont une image assez négative. D'autres invités que j'ai reçus dans le podcast qui disent qu'ils ne se mélangent pas, qu'ils ne s'intègrent pas vraiment à la culture. Toi, ton point de vue par rapport à ça, c'est quoi?
Globalement, c'est quand même souvent ça. C'est-à-dire que le profil moyen de l'expat, je vais dire c'est l'expat qui a tendance à venir dans un pays parce que sa grosse multinationale, son institution ou son pays l'ont envoyé, c'est des profils de gens qui viennent avec leur famille, qu'on a un peu sortis de leur univers, de leur cocon, de leur microcosme, mais qui ont pas spécialement un caractère aventureux. Donc ils viennent, ils inscrivent leurs enfants à l'école française, quand les parents d'élèves de l'école française. Et voilà, ça manquait un petit peu de sel, là, si tu veux. Donc ils n'aspirent pas, si tu veux, souvent, et je suis navré de généraliser un peu, c'est très probablement faux pour un grand nombre d'entre eux,
Bien
mais
sûr, bien
il y en a
sûr.
beaucoup qui sont un petit peu plan-plan, train-train, routine. Et qui ne correspondait pas à nos attentes et nos aspirations.
Et avant Madagascar et autre que le Maroc, est-ce que tu avais déjà voyagé en Afrique ou travaillé en Afrique ou pas du tout?
J'ai eu l'occasion de travailler alors en Tunisie. Les Tunisiens, les Marocains, c'est comme les Malgaches, on ne se considère pas africain à tort. Sinon, l'Afrique subsaharienne, j'ai connu Abidjan.
Et par rapport à la mentalité malgache, justement, c'est là-dessus que je voulais rebondir sur la mentalité africaine, parce que effectivement, les malgaches ne se considèrent pas comme africains, les marocains non plus, comme tu viens de le dire. Est-ce que tu vois quand même des similitudes entre les deux peuples, une mentalité finalement qu'on pourrait qualifier de mentalité africaine, ou alors pas du tout, tu trouves que ces deux peuples qui sont vraiment très différents?
Autant pour le Maroc, je peux le dire, autant les différences pour Madagascar sont saisissantes. Donc, si tu veux, pour l'anecdote, quand j'ai à peine commencé à échanger avec mes partenaires, mes clients à Madagascar, j'étais encore à distance, je n'avais jamais mis les pieds. J'avais envoyé un certain nombre de propositions commerciales que j'ai fait relire par des amis malgaches pour avoir leur avis en disant, voilà, est-ce que j'ai pas fait d'impair? Est-ce que non? C'est là que j'ai été sensibilisé la première fois à la petite sensibilité concernant l'usage du mot malagasse plutôt que malgache. Donc j'ai dû faire attention. Mais aussi, mon ami à l'époque m'a dit, écoute, il y a juste un problème dans ta proposition, c'est que tu racontes un peu partout que tu as une expérience africaine. Or, Madagascar, c'est pas l'Afrique. Et mon expérience a quand même montré que sur beaucoup de choses, c'est-à-dire si tu vas au-delà des challenges socio-économiques du pays, la mentalité, elle est très insulaire et elle est très spécifique. à Madagascar. Et franchement, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai vu, je ressens une mentalité beaucoup plus orientale que africaine, comme j'ai pu le voir à Abidjan, par exemple, en Côte d'Ivoire. On est dans une communication non verbale, des subtilités, des non-dits, qui, à mon sens, se rapprochent beaucoup plus de ce qu'on peut voir en Asie que dans les autres pays africains que j'ai pratiqués.
Et tu l'as détecté au bout de combien de temps tout ça? Parce que tout ça, faut le décoder, faut s'entourer, comme toi tu le fais très bien avec des Malagas, voilà, dans ton travail, etc. C'est au bout de combien de temps que t'as vu tout ça et que tu l'as compris?
J'ai très vite été confronté au fameux non, ou plutôt au fameux oui qui veut dire non. Et donc, en général, c'est à tes dépens, dans tes premiers échanges avec les personnes, etc. Et donc, tu fais très vite attention. Tu essaies de capter les signaux non verbaux, les hésitations, les intonations, la manière de dire, le petit froncement de sourcils, ce qui fait que, voilà, tout en diplomatie, je sais quand même, on prend beaucoup plus de précautions oratoire à Madagascar qu'ailleurs, à mon sens. Et je pense que c'est venu très vite. J'ai pas eu de difficulté là-dessus.
Et concernant ta vie quotidienne, alors tout à l'heure c'est très intéressant parce que tu disais que tu voulais pas forcément vivre à Ivanjou, mais plutôt en centre-ville. Généralement, on parle beaucoup de l'insécurité, comme tu le disais, hein, tu l'as lu sur les forums. Si tu avais vraiment écouté les forums, tu aurais un bazooka dans la valise, tu serais limite pas sorti la nuit, etc. Toi, est-ce que ce sentiment d'insécurité, tu l'as aussi ou pas du tout?
Alors, le sentiment d'insécurité, il est hérité, c'est-à-dire c'est les on dit, les on m'a raconté, j'ai le cousin de ma tante qui a eu ça. Moi, à titre perso, je n'ai jamais été confronté à l'insécurité. J'ai jamais eu un moment où je me suis dit, là, c'est pas safe, ou là, faut faire attention, etc. Naturellement, on fait attention, il y a des gestes de précaution qu'on adopte assez rapidement. Voilà, il est recommandé, si ce n'est pas même obligatoire d'avoir quelqu'un qui garde la maison pour éviter toute tentation. Mais à part ça, on vit de la manière la plus normale possible. Donc pas de, vraiment pas de, on s'interdit pas de vivre à cause de ça. En se disant que même s'il y a éventuellement, enfin je sais pas, bon, des petits pickpockets, on a entendu parler, j'ai pas ressenti une violence abjecte dans ce que j'apprends. C'est-à-dire que ce que j'entends autour de moi, c'est essentiellement on m'a tiré mon portefeuille, mon iPhone. Je me dis, ce serait dommage de s'empêcher de vivre juste pour pas perdre un téléphone qui sera démodé dans 6 mois. Donc, vie strictement normale et à date, ça fait 2 ans de vie, on va dire assez pleine, hein, chargée, en sortant tous les jours, en faisant de la moto tous les jours, en se voyageant sans restriction, jamais eu le moindre problème.
Alors justement, parle-nous un peu de tes voyages parce que tu m'as dit que tu avais pas mal voyagé à moto. Raconte-nous un peu ce que tu as vu, où est-ce que tu étais, quelles étaient tes premières impressions sur la nature à Madagascar.
Oui, effectivement, j'ai très vite fait le choix de découvrir Madagascar à moto parce que le pays s'y prête particulièrement. Hein, plein de, bah, d'une part, à cause des embouteillages, déjà, donc ça c'est le premier argument. Le deuxième, c'est avec toutes les belles nationales qu'on peut faire, certaines plus ou moins praticables et tout. Avoir une moto, vraiment, c'est à mon sens la meilleure manière de découvrir Madagascar si on peut. On est libre, c'est plus rapide, c'est plus agréable. Alors, en venant à Madagascar, c'était assez fort pour moi. C'est-à-dire, je n'étais pas le genre particulièrement nature. Pourtant, ouais, je le suis devenu, malgré moi. C'est-à-dire que quand tu fais rien que les RN, hein, donc les principales routes nationales qui traversent le pays de bout en bout, tu es époustouflé par la beauté de ce que tu vois. Et ça, c'est clairement un des plus beaux souvenirs que j'emmènerai dans mes valises le jour où je quitte Madagascar. Vraiment, voyager, découvrir des endroits, pas forcément avoir planifié. Ça, c'est vraiment très, très bien.
Et justement, concernant maintenant, si on fait un peu le parallélisme entre Marwan qui devait aller à Mada, qui n'était pas trop motivé et qui aujourd'hui se projette un peu plus que 2 ans à Mada, peut-être. Si toi, tu devais vendre Madagascar aujourd'hui ou recruter des gens pour Madagascar, qu'est-ce que tu mets en avant qu'on ne voit pas forcément ou qu'on ne connaît pas forcément sur le pays?
J'ai eu l'occasion de le faire, c'est-à-dire que quand je suis venu, j'étais tout seul présenter mon entreprise. Aujourd'hui, selon les phases, on est jusqu'à plus d'une dizaine de personnes, beaucoup qui ont fait le
D'accord.
choix de me suivre et de venir vivre à Madagascar.
D'accord.
La première réponse est très égoïste, c'est la qualité de vie.
Bien sûr.
C'est pas compliqué de vendre à ses collègues parisiens, écoutez, venez troquer votre 22 mètres carrés contre
Oui.
quelque chose de bien plus agréable, un temps qui est très sympa. Une offre de sortie, de loisirs qui est non seulement hyper large, mais qui en plus est plutôt abordable pour des pouvoirs d'achat occidentaux. Donc, c'est pas compliqué de vendre la destination. Et pour peu qu'on a des gens qui sont prêts à aller à l'aventure, j'ai eu aucun mal. J'ai eu aucun mal. Beaucoup de gens qui étaient venus comme moi pour quelques semaines. Eh bien, on décidait de rester un peu plus longtemps, donc ça prouve que la destination attire.
D'accord, bah tant mieux. Tant mieux parce que au moins finalement c'est avec des gens comme toi finalement qui sont pas malgaches et qui s'y plaisent. C'est comme ça aussi qu'on peut attirer d'autres personnes pour un peu positiver l'image de Madagascar.
Absolument.
Et concernant la relation avec les malgaches, tu l'as dit tout à l'heure, toi aussi tu es africain, tu es marocain et je voulais savoir, tu vois, à Madagascar, on parle beaucoup du racisme. Parce qu'on est des gens qui viennent du Nil, qu'on ne connaît pas forcément finalement d'autres origines que les Malgaches. Comment tu le vis, toi, en tant que Marocain à Madagascar?
Je n'y ai pas été confronté. En
Okay.
fait,
D'accord.
il y a deux racismes sans aucun doute, hein, de ce que je comprends. Alors, il y a le premier, c'est l'étranger en dehors de l'île. Et
D'accord.
là, mon constat est assez fort. C'est-à-dire que pour moi, Madagascar, c'est le seul endroit que j'ai visité dans ma vie qui n'est pas xénophobe, mais qui est xénophile.
D'accord.
D'être étranger, c'est magnifique. Ça t'ouvre tout plein de portes.
Oui.
Les gens sont particulièrement gentils avec toi. Tu n'as aucune difficulté. Limite, tu as des situations qui te rendent mal à l'aise. On te propose de ne pas faire la queue dans certains endroits. Ça m'est déjà arrivé.
Ah oui, d'accord.
Oui.
Un traitement de faveur
Aujourd'hui,
finalement parce que tu es étranger. OK.
absolument, c'est limite trop. Et
Ouais,
aujourd'hui, c'est
ouais.
pour ça que certaines personnes s'y plaisent et ne repartiront jamais. Aujourd'hui, le pays est un des plus accueillants que j'ai jamais vu. Et on te passe toutes sortes de choses sous prétexte que tu es étranger. Certains
D'accord.
abusent, bien sûr. Mais globalement, voilà, être étranger ne te desservira, à mon sens, jamais à Madagascar,
D'accord. D'accord.
quelle que soit ton origine, vue de ma fenêtre. Il n'y a pas de notion de hiérarchie dans l'étranger. Les étrangers sont globalement bien acceptés, bien vus. Après, est-ce qu'il n'y a pas des petites subtilités entre malgaches selon leur origine
C'est ça, ouais.
géographique ou sociale? Je sens que oui. Mais je ne saurais pas en dire beaucoup plus, mais je sens que c'est un peu plus complexe au sein de la société malgache.
D'accord. Et justement, je voulais te demander un peu la relation entre malgaches. Donc, c'est-à-dire, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le voir, mais les malgaches sont très familles, peut-être aussi au Maroc d'ailleurs. On est beaucoup entre familles, on est beaucoup entre nous. On célèbre un peu tous les événements de la vie, mais vraiment avec beaucoup de monde. On se voit de manière très régulière, hein, que ce soit les Malgaches à Madagascar ou les Malgaches même de la diaspora en France. Est-ce que toi, tu l'as vu ça? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a choqué? Est-ce que c'est quelque chose qui existe aussi au Maroc? Comment tu l'as abordé un peu ce thème?
Oui, c'est quelque chose qui existe aussi au Maroc, mais pas aussi fort. C'est-à-dire qu'au Maroc, on est famille. Oui, à
D'accord.
Madagascar, de ce que j'entends, on est clan. C'est encore plus grand que la
D'accord.
famille.
Oui,
C'est
oui.
des nombres plus importants.
Oui.
Je me suis rendu compte très vite que, enfin, il y avait par exemple, à titre d'anecdote, un certain nombre de ce qu'on appelle les espaces. Hein, donc, c'est les salles de réception. En fait,
D'accord.
oui, on les loue quand il y a un grand événement, type mariage ou autre, mais on les loue aussi régulièrement parce qu'on fait des réunions de famille.
D'accord.
Ce soutien et cette proximité familiale est particulièrement importante. Je l'ai vu puisque j'ai des amis. Je me rends compte que presque un week-end sur deux, ils ont un événement familial d'une forme ou d'une autre. Donc c'est très fort, hein. C'est prenant la famille à Madagascar. Mais c'est bien, oui. Mais effectivement, c'est clan. C'est-à-dire que de ce que je vois des gens que j'ai reçus, les réceptions, c'est pas 6-8 personnes, c'est beaucoup plus que ça
Ah
quand la
oui.
famille décide de se retrouver.
Et il y a une chose qu'on aime bien aussi à Madagascar, c'est manger. On aime bien
Absolument.
manger. Est-ce que tu as eu l'occasion de goûter des plats, des spécialités malgaches?
Je fais que ça, c'est terrible.
Mais c'est bien, Marwan, c'est bien.
Mon nutritionniste serait pas d'accord avec toi, mais effectivement, il y a un effet Madagascar qui fait que très vite tes habits sont un peu trop étroits pour toi. Donc, effectivement, on mange particulièrement bien à Madagascar. Il y a toutes sortes de choses qui nous apparaissent quand on est à l'étranger, super exclusives, chères, pas faciles à trouver, etc., qui sont simples ici.
D'accord.
Que ce soit de la nourriture malgache, mais aussi des choses. Il y a une offre de restaurant qui est fantastique. Mon plus gros étonnement, c'est que j'ai jamais autant mangé français, si ce n'est même franchouillard, à Madagascar qu'ailleurs. C'est-à-dire
Ah
qu'il y a
oui.
une tradition culinaire française qu'on ne retrouve plus. C'est-à-dire que j'ai déjà eu des amis à Paris qui voulaient goûter des cuisses de nymphes, de grenouilles. Je n'avais aucune idée d'où les envoyer. Autant ici, on mange du foie gras, des cuisses de nymphes, du bœuf bourguignon, de la raclette. C'est incroyable. On mange beaucoup plus français à Madagascar qu'en France.
D'accord.
C'est préservé, voilà.
D'accord.
Sinon, naturellement, on trouve de tout. Et globalement, l'offre est abordable et très bonne.
Et tu continues à consommer également des plats marocains? Est-ce que tu trouves facilement de quoi cuisiner ou pas?
Je trouve, oui, j'ai eu la chance. On trouve des épices sans aucun problème. Après, la matière première est à peu près la même.
D'accord.
Oui, je mange régulièrement marocain. J'ai une dame qui aide à la maison et qui a très vite appris quelques recettes. Donc ça va, je ne suis pas dépaysé. Et il y a même quelques restaurants qui proposent des spécialités méditerranéennes. Donc ça va.
D'accord, c'est super. Au moins, tu peux manger varié.
C'est ça.
Super. Et concernant tes apprentissages à Madagascar, je me dis toujours que quand on voyage, quand on vit à l'étranger, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, que l'expérience soit positive ou non, on apprend toujours des choses, que ce soit du pays, du peuple ou sur toi-même. Toi, si tu devais tirer un peu des apprentissages de ton expérience à Madagascar, quels seraient tes types d'expériences?
Alors, je vais être terriblement, horriblement cliché. Je vais dire que ça m'a appris à ralentir un peu. Donc, le fameux mot amour.
Oui.
Au début, ça frustre et au bout d'un moment, on s'y fait et c'est ce que je recommande. Il
D'accord.
faut s'y faire un petit peu. Il faut l'accepter et tout de suite, on se sent mieux. Donc, il y a ça. J'ai appris à ralentir un peu, à être peut-être parfois moins impatient. Et ça, c'est bien. C'est bénéfique pour
D'accord.
toi en tant que personne. Mon deuxième plus gros apprentissage est dans la communication. Comme je te le disais, j'ai très vite vu qu'ici c'était important, qu'on ne pouvait pas communiquer n'importe où. C'est
D'accord.
facile de vexer quelqu'un, c'est facile de mal comprendre quelque chose ou de mal véhiculer quelque chose. J'ai appris de mes amis, de mes collègues et de mes clients malgaches une certaine manière de s'exprimer, un certain art oratoire. C'est important ici. La manière dont tu parles peut te fermer de manière irrémédiable des portes comme t'en
D'accord.
ouvrir.
Oui.
J'ai vu qu'il y avait, par exemple, c'est le truc qui m'a la place dans la culture du kabar, de l'art oratoire, du discours, de la manière d'apporter des choses. C'est important et je pense que j'ai appris quelques éléments de ça. Donc
D'accord.
aujourd'hui, je fais très attention à la manière dont je m'exprime et ça me permet souvent de débloquer des situations, d'avancer au travail notamment.
D'accord, très bien. La mentalité Muramur, est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est pour ceux qui savent pas?
Bon, alors je ne sais pas traduire littéralement, mais c'est voilà, doucement, doucement,
Doucement, oui, c'est
pas
ça.
trop vite.
C'est
Voilà,
ça.
exactement. Donc la notion d'urgence est un peu plus relative, je dirais, à Madagascar.
D'accord.
Sans tomber dans le cliché, hein, j'ai horreur des
Oui,
clichés,
bien sûr.
mais bon, c'est vrai que souvent, peut-être un peu moins dans le travail, mes projets, mes missions, mais souvent dans les interactions qu'on a, eh bien, on est un peu plus détendu, un peu moins pressé. Je fais souvent figure d'impatient quand je me laisse aller. Donc c'est vrai
D'accord.
que ici, le temps est un petit peu plus, il s'écoule un peu plus lentement. Et ça, c'est pas
D'accord.
désagréable. Voilà.
D'accord. Parfait. Pour terminer, Marwan, j'avais trois petites questions pour toi. La première, qu'est-ce qui te retient aujourd'hui à Madagascar?
Bah, j'ai envie de dire à peu près tout, hein. Aujourd'hui, vu de ma fenêtre, très égoïstement, tous mes indicateurs sont au vert. Quand j'ai par exemple des amis qui viennent de l'étranger, ils me disent de quoi tu as besoin, la réponse c'est rien. J'ai tout, que ce soit matériellement ou même d'un point de vue aussi personnel, l'épanouissement, les amis, les sorties, les voyages, le sport. Donc que demander de plus? Donc aujourd'hui, voilà. Vraiment, no regrets. Et comme dit la blague, tant que je gagne, je joue. Donc pour l'instant, je vois aucune raison, aucun motif de quitter Madagascar puisque ça se passe bien.
Super. Deuxième question, quels sont tes conseils pour avoir une vie épanouie à Madagascar?
Oui, mon conseil, alors j'imagine qu'il s'adresse à quelqu'un qui ne vit pas à Madagascar,
À moi,
soit
par
qui.
exemple. Moi, je te
Voilà,
dis,
moi.
voilà, Marwan, je viens m'installer à Mada dans un mois. Qu'est-ce
Oui.
que tu me conseilles de faire, de pas faire?
Je vais donner un conseil très lâche. Je vais dire qu'il faut transiger. Voilà.
D'accord.
Il faut pas être intransigeant. Il faut savoir s'accommoder d'un certain nombre de choses. Ça veut dire que il faut avoir cette comment dire accepter que certaines choses ne sont pas encore aux normes, au niveau de qualité, au niveau de réactivité que l'on voudrait. Donc, si on est tout le temps dans un esprit de comparaison, si on est tout le temps dans un esprit d'impatience, l'expérience malgache va être mauvaise. Et
D'accord.
si je m'adresse de manière plus spécifique donc aux personnes de la diaspora, aux personnes qui ont quitté le pays depuis longtemps et qui souhaitent revenir, là, mon constat est encore plus fort. C'est ne vous plaignez de rien et ne soyez pas dans une posture de consommateur, de client. Si quelque chose ne marche pas, c'est parce que le pays manque de gens comme vous pour le réparer et pour
Bien sûr.
l'arranger, pour l'améliorer. Donc je pense que oui, il y a de belles choses à faire, il faut venir les faire. Et je suis super optimiste pour le pays à terme.
D'accord. Et justement, mon dernier message, ma dernière question, pardon, c'était est-ce que tu as quelque chose à partager? Donc, comme je te l'ai dit au début, ce podcast s'adresse vraiment aux gens qui ne sont plus ou pas à Mada et qui ne connaissent pas forcément le pays. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire?
Bah, la même chose que j'ai dit à mes compatriotes au Maroc qui sont à l'étranger, on est dans une situation qui est similaire. La même chose que je me suis dit à moi-même et que j'ai fait, c'est rentrer.
D'accord.
Rentrer, ne transigez plus, il faut rentrer parce qu'il y a des choses à construire. Bon, naturellement, protégez-vous, connaissez votre valeur, gardez votre intégrité, mais vous pouvez apporter quelque chose à votre pays d'origine et un certain niveau d'expérience, un certain niveau un âge, on a des choses à apporter dans son pays, donc il faut tenter. Ce sera pas facile, ce sera vraiment pas facile. Il y aura des difficultés, il y aura des choses qui seront moins sympas qu'à Paris, Vancouver ou New York. C'est clairement ça, mais un sentiment de je suis chez moi et je contribue même modestement à améliorer chez moi, qui à mon sens est vraiment incomparable.
D'accord, parfait. Bah écoute, merci beaucoup Marwan, merci d'avoir partagé ton expérience et puis je te
Avec plaisir.
dis à bientôt. Ça y est, c'est la fin de l'épisode. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Je profite de ce moment pour vous dire que le podcast ne fait que commencer et j'ai vraiment hâte de rencontrer de nouveaux Malgaches à travers le monde qui veulent nous partager leurs expériences. Alors, si vous souhaitez que je vous interviewe ou si vous souhaitez me proposer de nouveaux invités, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn, le réseau sur lequel je suis la plus active. Aussi, si vous avez des retours sur l'épisode, n'hésitez pas à m'en faire part, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Malabar.